Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Avec nous ce soir, Bernard Werber, romancier, peintre, réalisateur, auteur de BD, acteur même chez Agnès Varda et Claude Lelouch, on va y revenir. Vous signez Demain les chats chez Albin Michel. Tout de suite, ça a été dans les meilleures ventes. À vos côtés, Olivia Catan, qui est journaliste, romancière, avec un passé de chanteuse. On y reviendra aussi tout à l'heure. Vous vous connaissez alors?
C'est ce qu'on a appris quand vous avez... Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu par contre.
C'est vrai.
Mais vous connaissez à quelle occasion?
On a dîné ensemble.
Ah, bon, d'accord.
Avec Thomas Dutronc, avec quelques amis communs.
Voilà. Et voilà, pur hasard, les hasards parisiens, des
choses. On a parlé musique, littérature.
Voilà.
Qu'est-ce que vous avez en commun du côté de la musique? Parce que vous, c'est plutôt Pink Floyd, Genesis.
Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas exactement dans le même esprit. Moi, c'est rock progressif anglais, c'est vrai. Je suis resté bloqué là-dessus. Je suis un vieux baba cool.
Et vous, Olivia Catan?
Moi, je suis à fond sur Bowie, mais voilà.
Ouais. Oui, mais ça sert aussi.
Ma chatte écoute La Calasse, là, dans le roman.
Dans le roman, en effet. Il voilà. Y a une playlist à la fin, elle écoute Castadiva.
Oui, précisément, ça m'a l'air un peu une sorte de chat qui chante par moment La Calasse. On dirait qu'il y a quelque chose d'animal dedans. Peut-être c'est ça qui nous touche.
Et qui touche votre chatte, elle s'appelle comment?
Domino.
C'est très joli.
Enfin, ma chatte. Réelle, elle s'appelle Domino, dans le roman elle s'appelle Bastet.
Elle s'appelle Basket. Voilà.
Basket, c'est autre
chose. Oui, c'est autre chose. Demain les chats, un roman de science-fiction où les chats prennent le pouvoir, une sorte de dystopie, on est à Paris et puis c'est la violence. Bombardement, assassinat en pleine rue, terrorisme, et là on suit une chatte, donc Basket. Témoin des violences qui se passent dans la rue entre les humains et notamment un massacre d'enfants à la sortie de l'école. Et elle va rencontrer un autre chat, il est siamois, il s'appelle Pythagore. C'est un chat de laboratoire avec un troisième œil au sommet du crâne sous forme de prise USB connectée aux ordinateurs pour un but ultime, communiquer avec les humains. Ça va bien Bernard Werber.
Maintenant vous me le dites. Non, je m'amuse beaucoup dans mon métier d'écrivain parce que ça m'amuse de trouver des regards extérieurs pour parler de nos problèmes. J'ai l'impression que chaque fois qu'on écoute des actualités, on nous sert les mêmes choses avec toujours la même émotion. Et je pense qu'un chat qui nous regarde, qui nous observe avec son regard de chat, lui, il n'est pas dans les mêmes grilles de lecture. Et c'est ce que je voulais montrer. Il peut y avoir une autre grille de lecture sur ce qui se passe actuellement, quelque chose de moins angoissant, en fait. Et malgré ce que vous avez dit, j'allais dire, ma chatte, un, elle est sympathique, deux, elle veut communiquer, trois, elle veut du bien aux hommes, et quatre, le livre est extrêmement optimiste et vise à un monde meilleur.
Vous écrivez toujours, on le sait, à partir de l'actualité. Là, qu'est-ce qui a pu déclencher ce nouveau roman? Les attentats?
Oui. Vraiment. J'avais commencé un autre roman et puis dès qu'il y a eu les attentats, je me suis dit il faut que j'en parle mais autrement parce que tout le monde va y avoir deux camps qui vont clairement apparaître. Il faut que j'invente un nouveau camp qui soit le camp des chats. Et les chats, eux, quand ils voient les hommes qui se tuent, ils se disent pas ceux-ci sont gentils, ceux-ci sont méchants. Ils se disent juste pourquoi ils font ça. Pourquoi ils perdent leur temps à s'entretuer? Pourquoi ils ne mettent pas au point un système dans lequel ils communiquent mieux? Et pour ma chatte, pour Bastet, c'est juste, les humains ne communiquent pas bien. Il faudrait qu'ils améliorent leur communication.
Alors on comprend dès le début du roman que vous n'avez pas choisi les chiens, puisque vous donnez une déclaration du professeur Edmund Wells. Je crois que c'était quand même le professeur qui était déjà dans Les Fourmis, donc un professeur de fiction. Et ce professeur dit, un chien est capable d'apprendre et de retenir le sens de 120 mots, et comportement humain. Un chien sait compter jusqu'à 10 et peut effectuer des opérations de mathématiques simples comme l'addition ou la soustraction quand on lui donne à bouffer. Donc, un chien a une pensée équivalente à celle d'un enfant humain de 5 ans. Un chat, auquel on propose d'apprendre à compter, à réagir sur des paroles précises ou à reproduire des gestes humains, vous signifie rapidement qu'il n'a pas de temps à perdre avec ce genre de niaiserie. Donc, un chat a une pensée équivalente à celle d'un adulte de 50 ans. Vous avez quel âge, Bernard Werber?
50 ans. Les chiens, ça avait été fait. Il y avait le livre célèbre de science-fiction, Demain les chiens, auquel vous répondez.
C'est un hommage à ce livre.
J'avais lu ça quand j'avais... Enfin, c'est sorti dans les années 70. En fait, le titre anglais, c'est Cities. Et c'est la traduction française qui a donné Demain les chiens. Mais je me suis dit, surtout, en fait, ma référence, c'était La planète des singes. Je trouve qu'en France, on a un livre de science-fiction extraordinaire qui est connu dans le monde entier. Et souvent, on oublie que c'est un Français qui a écrit ça. C'est Pierre Boulle, donc, qui a écrit La planète des singes. Et c'est une réflexion sur... Que pourraient penser les animaux de notre comportement et en quoi ils pourraient nous aider? Mais poser le problème comme si on avait affaire à des partenaires. on s'est toujours positionné comme l'espèce dominante et tous les autres, c'est en dessous. Mais imaginons que nous soyons dans des ennuis et nous serons peut-être bien contents d'être aidés par des chats.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement ces chats permettent d'élucider le comportement humain, mais vous, pour travailler sur ces chats, vous avez consulté, on l'apprend à la fin du livre, parce que je regarde tous les remerciements, enfin, j'adore ce genre de choses, et vous citez un site, c'est wamiz.com, qui décrit, dites-vous, des comportements de chats atypiques. En quoi, quels sont les comportements qui vous ont le plus marqué, Bernard Werber?
Oh, bah, y a des chats déjà qui se comportent comme des chiens, pour commencer. Allez, moi, j'avais un chat qui aboyait, qui se baignait, qui adorait l'eau, qui aimait qui se mettait sous le robinet, et il prenait ça comme une douche.
Mais c'est vous qui l'avez contaminé, c'est pas possible.
Je sais pas,
j'ai un chat. Non, j'ai le même, hein.
C'est vrai,
j'ai le même. Ouais, ça, ouais. Moi, j'ai un chat, et c'est un Figaro aussi, et il se met sous la douche. Il adore l'eau.
Et ouais. Puis, j'ai eu un chat qui ne supportait pas les journalistes chez moi, ce qui m'a posé un réel problème. Et il attaquait les fils des micros et il mangeait les tout petits, vous savez, les petites mousses qu'il y a autour des micros qu'on met dessus. Et puis, il attaquait globalement toute personne qui rentre chez moi parce qu'il considère que d'abord, c'est lui qui doit décider qui rentre et qui sort. Donc, au-delà de Wamiz, il y avait l'observation de mon propre chat. Il ne supportait pas non plus que j'écrive, trop longtemps parce que je m'intéressais pas à lui. Donc, elle venait piétiner directement le clavier. Et puis le dernier truc que faisait mon chat, c'est se mettre sur la rambarde. J'étais au quatrième étage et elle se penchait dans le vide. Et là, elle me faisait comprendre qu'il suffirait qu'elle avance un tout petit peu pour qu'elle meure. Et elle me regardait dans le style. Et alors, ça te culpabiliserait, hein. et ça, c'était affreux. Et elle me le faisait tout le temps dans le style. Ah, si je suis sur la rambarde, cette hauteur, je meurs, on est d'accord. Et pourtant, regarde. Ah, je me penche. Et je crois qu'il y a un petit moucheron là. C'est donc qu'il y avait un animal dans lequel on sent que c'était complexe à l'intérieur du cerveau. Mais les chats sont mystérieux, naturellement mystérieux.
En fin de livre, vous listez les musiques que vous avez écoutées pendant l'écriture du livre, donc Casta Diva, puisque votre chat l'adore, les sonates de Beethoven, les 4 saisons de Vivaldi version hard rock, et ça.
Ah oui.
Et ça, ça dure une heure. Et c'est quoi, d'après vous, Christophe
Conseiller ? Alors, c'est une œuvre de la musicothérapie. C'est un compositeur américain. Alors là, j'ai oublié son nom. Vous me prenez un peu par surprise.
Andy Warhol.
Qui a fait une œuvre non très très longue avec les ronronnements de 9 chats.
Eh bien, c'est pas du tout ça. Mais ça aurait pu être ça. Ça s'appelle Détendez-vous avec Rookie. Voilà. Et c'est de Jean-Yves Gaucher.
Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est moins bien, alors.
Alors, non, je vais vous dire très simplement, ma sœur, qui est dermato à Toulouse, a un voisin qui est vétérinaire. Et un jour, elle me dit, tu sais, mon voisin a fait une découverte, la ronron-thérapie. Alors voilà, je suis allé discuter avec lui, il m'a expliqué qu'il a découvert que le ronronnement est sur une gamme d'ondes qui ressoude les os. Parce que les chats savent monter aux arbres, mais ils savent pas redescendre, ils sautent, et souvent ils se cassent les os. Donc au moment où ils se cassent les os, ils ont inventé une méthode qui est ce ronronnement qui leur permet de ressouder les os. Et l'autre particularité, c'est que ce ronronnement nous fait du bien à nous. D'ailleurs, il suffit de le vérifier. Pour toute personne qui a un chat, pour tous nos auditeurs qui ont des chats, ils le savent déjà.
Olivier Catan à côté de vous, ouais.
Voilà. Quand on va pas bien, le chat arrive, se met souvent à l'endroit où on a mal et se met à ronronner. Mais en fait, quand il fait ça, c'est pas juste une manière de montrer qu'il vous veut du bien.
C'est une réparation.
Il répare votre corps par une gamme d'ondes qui est très très basse que nous percevons à peine. Mais il faut voir une chose, c'est que les chats perçoivent beaucoup plus de sons que nous. Ils ont les infrasons, ils ont les sons plus graves, les sons plus aigus, parce qu'ils ont des oreilles plus sensibles. Vous voyez, d'ailleurs, ils peuvent les orienter. Ça nous manque à nous. Moi, je sais pas orienter mes oreilles.
Certains savent le faire. Et puis, ils sont payés pour ça.
Et ils ont plus de lumière que nous, puisque ce sont des animaux nocturnes. Donc, ils ont une photosensibilité bien plus importante. Donc, ils perçoivent du monde, beaucoup plus de choses. En plus, ils ont la moustache qui leur permet de percevoir toutes les vibrations autour. Donc, en fait, quand je décrivais mon héroïne, une basse-tête dans de mal des chats, j'avais une sorte d'extraterrestre naturel que nous avons tous pu constater que c'est un animal extraordinaire qui fait des choses extraordinaires.
Eh bien, on y revient dans quelques instants.
As I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. 'Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream.
Check, I had a dream about you last night.
we were listening to Far Side. Sounding the sun started spinning in the past. I so I kept the singing to the bar side. We were on the last ride. I say it is the past, but the present moving fast. I ain't thinking about the last time. It's fine, but they were saying that you asked my brothers if I'm ready for the last line. Remember in the way you move, it's bugging me out. I kept sweet left feet, don't trouble me now. It gets peak if the deed starts loving the sound. But we were running from the beast off the ground. Cause if I break the singular jack, cause a little bit of trouble, fill a fifth of the yak. It's not that quick to react. If I finish the pack, we move forward. Now I'm bringing it back.
And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream.
She was saying, don't start, got me feeling at the same time. I'm the one part, but repeating in the same shine. Say, I'm so dark, got a kneeling in the brain, it's fine. I'm lost part, but she's reeling in the blame, it's mine. It's mine, mine.
And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. Cause as I wake up from this crazy dream,
quand les Anglais s'amusent à mixer hip-hop rêveur et électro sexy, ça donne ce Crazy Dream, rêve fou de Tom Misch et Lloyd Carner. Tout de suite, Demain les chats, c'est votre nouveau roman, Bernard Werber chez Albin Michel, un best-seller. Je lisais aussi que vous étiez un phénomène d'édition en Corée du Sud, plus de 7 millions de livres vendus avec 19 romans. Comment vous expliquez ce succès là-bas de votre part, et j'imagine de la part de la science-fiction en fait?
Oui, voilà, c'est exactement, vous avez trouvé.
Parce que vous faites des conférences, j'ai lu aussi devant 5000 personnes en Corée du Sud.
C'est un pays qui est tourné vers le futur parce que leur passé est assez douloureux. Donc, ils n'ont pas la nostalgie de ce qui s'est passé avant. Par contre, ils ont vraiment envie de prendre des parts dans le futur. Et vu que mes livres parlent du futur et de l'avenir, ils sont très intéressés. En France, tout à l'heure, je parlais de Pierre Boulle. Ouais. On a une très mauvaise image de la science-fiction. On a l'impression que c'est un truc pour les jeunes ou pour les enfants. Et donc, c'est comme si on refusait de s'intéresser à l'avenir. Des livres comme Le meilleur des mondes, des livres comme 1984, des livres comme La planète des singes, sont des livres qui, à mon avis, sont des pur roman littéraire et non pas à être juste dans cette zone de pestiférée qu'est celle de la science-fiction.
Et qu'il l'est encore, parce que quand vous avez commencé dans les années 90, au milieu des années 90, parce qu'avant vous étiez journaliste scientifique, notamment à l'Obs, quand vous commencez la science-fiction avec Les fourmis en 90, dans les années 90, quel était l'état de la science-fiction en France? Vous étiez un ovni?
Oui, d'ailleurs je pense que la science-fiction en France avait une très mauvaise image d'elle-même. Elle trouvait ses repères aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon.
Ce qui est
pas normal. Nous avons en France Jules Verne, nous avons en France Barjavel, nous avons en France Pierre Boulle. Donc nous avons quand même un vrai passé de science-fictionneux de qualité. Et là, tout d'un coup, c'est comme si on avait décidé que cette littérature n'existait pas.
Et comment vous expliquez ça?
Il y a dû y avoir des erreurs qui ont été faites. D'abord, j'ai une explication. C'est que dans les écoles, dans les lycées, il y a une séparation de section littéraire et section scientifique. Et dès le moment où on a section littéraire, on décide que la science ne nous intéresse plus. Et ceux qui rentrent en section scientifique se disent, les littéraires, c'est ceux qui ont des moins bonnes notes. Donc il y a un mépris des deux tribus qui font que, par exemple, quand j'étais journaliste au Nouvel Obs, je sais que les autres journalistes ne lisaient pas la rubrique science parce qu'ils considéraient que la science, c'est pas leur truc. Donc il y a plein de gens qui manquent de curiosité. En fait, la science, c'est tout. Notre cœur, notre vie, le monde, tout ce qui se passe, c'est de la science. L'univers, c'est de la science. Il faut sortir la science des laboratoires. Et il faut enlever le mot science-fiction de la littérature. Il faut juste dire, on parle du futur, on parle de notre avenir et on réfléchit ensemble. C'est presque la D'ailleurs, j'utilise plutôt le terme de philosophie fiction. C'est-à-dire, c'est pas un problématique de technologie, c'est pas des fusées qui vont nous sauver, c'est pas les extraterrestres, c'est pas les lasers, c'est pas les machines à remonter le temps, c'est les changements de mentalité. Et ce que j'essaie d'offrir en Demain les chats, c'est une autre mentalité qui est celle des chats, tout simplement.
Bernard Werber, vous êtes comme tous les chats, vous avez plusieurs vies, formation de scénariste, de criminologie aussi, vous le saviez ça, Olivier Catan? Criminologie aussi, on en parlera tout à l'heure peut-être avec le tueur en série albanais. Une histoire d'amour avec une lectrice qui vous a voulu comme cadeau pour son anniversaire et ça a quand même duré 3 ans. Oui. On voit ça que dans les romans de Delphine de Vigan. C'est quand même incroyable. Peintre aussi au milieu des années 90 et c'est arrivé, je lisais, parce que vous étiez dégoûté du monde des livres.
Non, c'est pas ça. C'est que
ce que vous avez écrit.
Ouais. Non, mais j'écris peut-être pas des choses bien. non. C'est des fois déformé par le journaliste. J'ai jamais été dégoûté du monde des livres. Au contraire, pour moi, les livres m'ont sauvé. J'adore tout ce qui est littéraire et j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de gens.
Du milieu.
Du milieu. À un moment, c'est vrai que je me suis dit, oh, ok, chaque fois que j'envoie un livre, c'est comme s'il n'avait aucune résonance, en tout cas en France. Et en effet, c'est une résonance en Russie, en Corée. Donc, c'est un peu agaçant.
Maintenant, vous avez des milliers de lecteurs.
Et justement, c'est pour ça que un, je me plains pas, et deux, finalement, j'allais vous dire peut-être que tout ce monde est parfait dans la mesure où, enfin, en tout cas, ce monde littéraire est parfait parce que je suis très visible, précisément parce qu'il n'y a pas littérature de science-fiction en France, et j'espère ouvrir la voie pour qu'il y ait de plus en plus d'auteurs de science-fiction, d'éditeurs qui n'aient pas peur de sortir des livres d'anticipation. Et quant à la peinture, c'est pas ça, c'est plutôt quand j'ai une nouvelle à écrire, j'arrive pas à l'exprimer, j'essaie d'écrire une nouvelle par jour, par moment, il arrive d'en faire un tableau. Donc ça sort une image. J'ai pas dit que j'étais un bon peintre.
Je n'ai pas dit ça non plus.
j'ai juste dit, je m'exprime par moment par l'image, mais je m'exprime aussi par la photo, par le théâtre, si vous voulez, on en parlera.
Oui, on en parlera, en effet. Ouais.
Mais pour moi, c'est juste, en fait, je suis un raconteur d'histoire.
Et ça peut passer par tous les médias.
Mais le mot écrivain, pour moi, ça me semble presque limitatif. Si je me trouve dans une soirée où il y a des gens qui s'ennuient, je vais leur raconter une histoire. Mais c'est comme à l'école, dans la cour de récréation, je racontais des histoires. Mais c'est ça, pour moi, le métier.
Votre première nouvelle, vous étiez très jeune, c'était une histoire de puce.
Oui.
Ça consistait en quoi? C'était de la science-fiction?
J'avais 8 ans, c'était un accent libre, et je me rappelle surtout, le professeur m'avait dit « J'adorais votre truc, mais alors la première phrase, un jour vous comprendrez, elle fonctionne pas. » Et la première phrase, c'était « Je suis une puce née d'un père puceau et d'une mère pucelle. » Et c'est vrai qu'il m'a pas donné l'explication pourquoi ça fonctionnait pas.
Vous avez compris des années plus tard.
J'ai compris quelques temps plus tard, mais après, en tout cas, je me suis dit « Tiens, quand
mais
je
c'est
fais... »
C'est pas mal comme début de phrase, hein, Thomas Claire. Ouais, c'est pas mal.
Super. Ouais, en fait, donc, ma première œuvre littéraire a commencé par cette phrase. Je suis un puceau né d'une mère pucelle.
Vous l'avez dit. Le lapsus. Ouais, de fantaisie.
Je suis vierge, ascendant vierge, mais ça n'a rien à voir.
Mais ça n'a rien à voir. Pleine vie donc pour Bernard Werber. Nos réalisatrices ont choisi, elles, Bernard Werber au cinéma. Et ça donne une sorte de documentaire animalier.
Ceci est un humain mâle.
Bernard Werber.
Comme on le voit, il n'a pas de crinière ni de pie proéminent.
Merci beaucoup d'être là, Bernard Werber, mais je commence par vous.
Sont-ils intelligents?
Alors là, je peux vous faire un aveu, confession.
Pour l'instant, on peut se poser la question.
M'en veuillez pas, j'ai pas du tout aimé Romain Gard.
Ils ont cette tendance inexplicable à détruire tout ce qu'ils touchent.
Examinons de plus près l'un de leurs nids.
C'est à cette heure-ci que t'arrives? J'espère que t'as une bonne explication.
Cela fait partie des grands mystères de cette région de l'univers.
S'il vous plaît, un panini jambon fromage.
Un panini jambon fromage.
Lorsque viennent les périodes des chaleurs, les mâles et les femelles en âge de procréer sont pris d'une excitation accrue.
On a les mêmes goûts.
Et les mêmes horaires.
Et c'est le même prix, 14 francs. C'est comme un écho.
Cela a l'air de beaucoup les amuser.
Je vois un lion.
Les terriens sont des animaux grégaires.
Je vois une rencontre.
Ne supportent pas de rester seuls.
Oui, vous allez rencontrer un jeune homme.
À deux ou à trois, ils sont rassurés.
Pas très bavard, mais séduisant.
La scène suivante peut choquer des personnes sensibles.
Et mon amoureux,
il a disparu des cartes.
Mais je l'aime.
Pour l'instant, on peut se poser la question.
Qu'est-ce que vous êtes en train de chanter?
Genesis, j'adore ce morceau.
Ah, il était derrière.
La première fois que j'ai entendu ce truc, ça m'a ouvert une porte. Et ça, parce que justement, c'est un morceau qui raconte une histoire. C'est 20 minutes d'histoire fantastique. Et peut-être parce que mon père m'a raconté des histoires avant de me coucher. J'adore, en entendre et de en raconter.
Alors dans ce mix, on entendait Nos Amis les Terriens, c'est votre film en 2007. Nos Amis les Humains, c'est votre court-métrage. Roman de gare de Claude Lelouch, où vous faites une apparition. Et Le Lion volatile d'Agnès Varda, où vous jouez le rôle d'un gardien-chef des catacombes. Comment vous vous êtes retrouvé dans un film d'Agnès Varda, Bernard Werber?
Il devait y avoir à l'époque une sorte de patchwork de petits courts-métrages. Et chaque réalisateur devait inviter un autre réalisateur. Et donc je devais réaliser mon court-métrage et inviter Agnès Varda comme actrice. Et Agnès Varda devait m'inviter comme acteur. Et je me suis aperçu que je suis nul comme acteur, parce que en fait, je ne sais pas jouer d'autres rôles que moi-même. Donc, voilà, il est important de connaître aussi ses limites d'incompétence. Donc, j'ai fait de la crémino, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la peinture, je suis plus ou moins doué dans ces domaines, mais comme acteur, je suis nul.
Vous avez créé une troupe de théâtre éphémère, le STAC. Ouais. Ça voulait dire quoi, le STAC?
C'est un satirique théâtre atroce et cynique qui jouait des nouvelles d'après Hitchcock.
Vous jouiez vous-même? Qu'est-ce que vous faisiez là-dedans?
Metteur en scène, et puis je faisais les textes. Mais surtout, ce qui m'amusait, c'était de créer un petit spectacle. Et c'était très drôle.
Et Agnès Varda, comment ça s'est passé?
Mal.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'une première fois, j'ai joué le rôle, et puis elle m'a dit que ça allait pas, il fallait le jouer différemment. Puis j'ai proposé plein de trucs, puis finalement, ça allait pas du tout. Puis j'ai compris que ça allait pas du tout, et puis je me suis dit, j'ai un peu envie de laisser tomber. Et je comprends qu'en fait, c'est un talent particulier, et je ne l'ai pas.
Et voilà. Chez Lelouch?
Lelouch, c'est un être formidable.
Qui vous a aidé d'ailleurs pour votre premier long métrage.
C'est lui qui a produit mon long métrage et il m'a dit, je te laisse faire tes erreurs parce que c'est avec tes erreurs. Non, parce qu'il aurait pu m'aider parce que j'ai réalisé le film. Et il m'a dit, je te laisse faire tes erreurs donc de ton premier long métrage. Comme ça, tu vas trouver ton style. Et moi, je vois bien comment tu pourrais faire pour que ça fonctionne mieux. Mais je vais te laisser te fourvoyer. Et donc, c'est vrai que j'ai trouvé mon style en faisant ce film. Et en même temps, j'ai bien compris comment il fallait faire du cinéma. Mais il y a eu un petit problème sur Nos Amis les Terriens, c'est que je crois que j'ai voulu faire un peu trop original, j'ai voulu être un peu trop ambitieux par rapport à un sujet délicat, comme ça, en fait, c'est un documentaire fait par des extraterrestres sur l'espèce humaine.
Exactement. Et là, c'est toujours cette histoire de regard déplacé. Voilà. Hein, les extraterrestres qui regardent les humains, et cette fois-ci, les chats qui regardent les terriens. Les humains aussi. Olivia Catton, j'imagine que vous avez appris plein de choses sur votre ami Bernard Werber.
Oui, j'en savais pas mal, mais là, je dois dire que j'en ai appris pas mal aussi.
J'attends quelqu'un.
Moi, un rendez-vous.
Peut-être quelque chose sur le théâtre aussi, Bernard Werber, parce que vous avez une pièce aussi en ce moment.
Oui, Nos Amis les Humains, qui a d'ailleurs permis de faire le film.
Je ne me retrouve plus. Nos Amis les Terriens, Nos Amis les Humains. C'est lequel, celui-là?
Nos Amis les Terriens.
Nos Amis les Terriens, c'est le film.
Et Nos Amis les Humains, c'est la pièce. Et c'est formidablement joué par Jean-Christophe Barque et Magali Bros, qui font deux humains qui sont pris dans une cage et observés par des extraterrestres. Et donc, c'est un duo dans lequel tous les deux essaient de retrouver l'intérêt d'être un humain et l'intérêt de poursuivre l'aventure de l'humanité. Et c'est vraiment extraordinaire. Ils ont fait un projet, donc c'est au Palais des Glaces.
Ils ont un chat.
Il n'y a pas de chat sur scène, mais il y a des chats dans la vie privée des acteurs, mais je ne vous dirai pas qui.
Il y a 4 ans, je vous voyais sourire à cette évocation.
Oui, je souris parce que Jean-Christophe Barque, je suis en train d'écrire un film avec lui. Ah, on est en train de scénariser un film. Alors, donc, voilà.
C'est un acteur formidable. Il met toute son énergie. Ouais. Il a pris ce rôle, c'est marrant parce qu'il a déteint sur le rôle, maintenant il est devenu comme le personnage, il parle comme le personnage dans le réel.
Ça peut foutre à la trouille, vous savez ça.
Oui, mais je trouve ça fantastique, c'est-à-dire c'est le pouvoir d'une bonne histoire.
Ce que j'aime chez Bernard Werber, c'est qu'il me ressemble parce qu'on a plein d'étiquettes. Voilà, moi j'ai été chanteuse, j'écris des livres, j'ai été journaliste, et c'est ça que j'aime bien chez lui, et ça manque un petit peu, parce qu'on a tendance à nous mettre dans des cases.
Non mais vous inquiétez pas, on va vous déclasser. Ça va commencer dans quelques instants.
Merci beaucoup.